Radio Kapi.
Le journal Babel Pongo Massimango.
Madame, Monsieur, bonjour. À la une, cette bonne nouvelle en Ituri. Trois mois après la fermeture de la base de la MONUSCO d'Amiamagi, la situation sécuritaire est meilleure. Le taux de criminalité a baissé. Les communautés reprennent progressivement leurs relations. Constat hier d'une équipe de la MONUSCO en mission sur place. Nous serons à Pakajuma, dans la commune de Limete, ici à Kinshasa. Près d'un mois après la délocalisation de ses habitants vers Nsele, la majorité est déjà de retour sur place et déplore des conditions déplorables sur leur site de relogement. Le dialogue congolais est revenu hier sur le forum provincial sur la problématique des ADF, clôturé mercredi à Beni, dans Nord Kivu. Dans ce journal, les réactions des intervenants. Bienvenue à cette édition du journal. Nous commençons par cette bonne nouvelle. Trois mois après la fermeture de la base de la MONUSCO d'Amé en territoire de Mahagui en Ituri, la situation sécuritaire s'est nettement améliorée sur place. Constat dressé hier mardi par une équipe de la MONUSCO en mission dans la zone après des échanges avec différentes couches de la population. L'objectif de cette mission était d'évaluer la situation générale après le retrait de la mission onusienne et aussi d'analyser les mécanismes mis en place pour consolider les acquis. Retrouvant sur place Jean
Sur le terrain, les indicateurs sont encourageants. Le taux de criminalité a sensiblement baissé. Les communautés Alour et Lindou reprennent progressivement leurs relations. Élèves et enseignants fréquentent à nouveau les mêmes écoles, tandis que les opérateurs économiques ont relancé leurs échanges commerciaux. Ouzele Uchai est homme d'affaires au centre commercial d'Amé.
Nos fêtes viennent se ravitailler en différents produits, comme du savon, du sel, de caisses, de bière. Et de là, nous ramenons les concepts de manioc, de la pomme de terre, du haricot,
des sauts.
Cependant, malgré ces avancées, certaines inquiétudes persistent. Des jeunes détiennent encore illégalement des armes dans la zone. Les autorités coutumières estiment que l'État doit agir rapidement pour consolider cette dynamique positive. Des canards Ayuba.
Notre proposition est l'accélération du processus de RAD, même le PDDRCS. Pour nous soulager, ça pourrait être mieux parce que nos jeunes, déjà, s'ils sont pris en charge, ça pourrait quand même soulager la population.
Dans un contexte encore fragile en Ituri, les populations de Mahagui appellent ainsi à la consolidation des acquis sécuritaires afin que cette accalmie se transforme en une paix durable au bénéfice de toutes les communautés de l'Ituri. Depuis Amé, Jean-Claude Lokidile, Radio Kapi.
Parlons de ce bilan dressé par l'ONG Badilika concernant le Nord Kivu. Le rapport publié lundi fait état d'une forte détérioration de la situation sécuritaire entre décembre 2025 et février 2026. Sans ce document, plus de 200 civils ont été tués, une soixantaine d'autres blessés. L'organisation signale également près de 200 000 nouveaux déplacés dans le seul territoire de Masisi. Elle attribue cette flambée de violence aux multiples groupes armés actifs dans la région, notamment les ADF, les FTLR, la FCM 23 et les Wazalindo. Patrick Manouvo Onguka, chargé de communication de l'ONG, appelle toutes les parties au conflit à respecter le droit international humanitaire en cette période de guerre. On l'écoute.
Plus de 270 personnes qui ont été tuées dans cette région. Et ce sont l'œuvre de plusieurs groupes armés. Dans le secteur de Bapere, en territoire des Loubéron, dans les incursions d'ADEF. Au-delà de ça, des cas dans la partie du M23, il y a eu des attaques de pillages ciblés sur certaines routes. Par exemple, la route de Kanyabayong amenant vers Goma. Nous venons d'enregistrer aussi, pendant cette période de notre monitoring, le périphérique de la ville de Butembo a enregistré plusieurs cas de tracasserie dits aux Wazalindo. Les populations agricultrices ont été obligées de payer à chaque passage entre 5 000 à 20 000 francs. Il y a eu même certaines personnes qui ont trouvé la mort dans différents liens de détention érigés par les Wazalendo. Plus grave, c'est dans la partie contrôlée par les M23, où il y a plusieurs personnes qui ont été enlevées pour suivre forcément des formations militaires vers Tchandjou, vers Union. Nous devons attendre que demain, que la justice soit faite contre toutes ces violations. Les parties à conflit doivent respecter les droits internationaux humanitaires.
Patrick Manouvo, chargé de communication de l'ONG Badilika. Le renforcement de l'autorité coutumière gage de la stabilité, du développement, de la sécurité et de la cohésion des communautés en République démocratique du Congo. C'est le thème du Forum national des affaires coutumières lancé lundi à Kinshasa par le président de la République. Selon le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, ce forum vise à organiser et transformer les entités coutumières en véritable pôle de développement à la base. D'autres détails avec vous, Alain Ronk.
Le chef de l'État est revenu sur l'agression dont la RDC est victime de la part de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda. Il a fustigé l'opération menée par la rébellion qui consiste à remplacer les chefs traditionnels. Félix-Antoine Tshisekedi.
Parmi les méthodes utilisées par ces forces négatives figure une entreprise particulièrement pernicieuse, la tentative de substitution des chefs coutumiers légitimes par des individus imposés, étrangers aux traditions locales, pour mieux asseoir une logique d'occupation et de prédation.
De son côté, le vice-ministre des Affaires coutumières, autorité traditionnelle lui-même, a plaidé notamment pour l'implication du pouvoir coutumier dans la mise en œuvre du projet écologique Couloir Vert Kivu-Kinshasa. Jean-Baptiste Ndézé.
Pour que ce projet soit un succès, la capacitation des entités opérationnelles décentralisées représente le point clé.
Selon le vice-premier ministre de l'Intérieur, les participants suivront des sessions réparties dans plusieurs thématiques, notamment la décentralisation, le développement local, la gouvernance coutumière et sécuritaire.
Parlons de cette attaque qui a eu lieu dans les petites heures de la matinée d'hier mardi dans le Haut-Katanga. Des éléments Maïmaï ont attaqué la station de Lusinga, qui est le quartier général du parc Upemba, situé à 45 km de Mitwaba Centre. D'après certains responsables du parc, après un échange de tirs de quelques heures entre les éco-gardes et les assaillants, ces derniers ont réussi à prendre le contrôle de la station. Ils précisent encore que ces Maïmaï ont cassé l'armurerie et emporté plusieurs armes à feu et d'autres équipements des éco-gardes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Pakajuma, dans la commune de Limete à Kinshasa, près d'un mois après le dégarpissement de ses habitants? En tout cas, plusieurs familles dont les maisons ont été démolies sont revenues s'installer dans des hangars de fortune malgré des risques liés aux intempéries. Une grande partie des sinistrés a abandonné le site de relocalisation. Certains affirment que dans la commune de Lancele où ils ont été envoyés, les conditions sont alarmantes. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de centre de santé non plus. Ils déplorent notamment la faim et des cas de choléra touchant des enfants. Nancy Atambo s'est rendue sur place.
À Pakajuma, plusieurs familles disent ne plus vouloir repartir.
Comme vous nous voyez là, nos enfants étudient, mais présentement, avec les conditions dans lesquelles nous vivons, ils ne peuvent plus étudier. Nous ne sommes pas installés, nous n'avons pas de maison, et comment veux-tu que les enfants étudient dans ces conditions? Comment partir là où ils nous demandent d'aller sans maison construite pour nous? Plusieurs enfants meurent faute d'abri. S'il vous plaît, aidez-nous même à retourner dans nos villages respectifs.
Quand on trouve une solution,
ici aussi nous avions commencé à exercer des petits commerces. Nous n'étions pas là pour des mauvaises activités. S'ils peuvent nous donner de l'argent pour que nous nous déplacions par nos propres moyens, ce serait mieux. Parce que là où on nous envoie, les gens meurent. Une maman a accouché de 3 enfants, ils sont tous morts. À cause des inondations, il n'y a pas de place pour s'installer. Les gens vivent à l'extérieur.
Cependant, la bourgmestre rassure que les dispositions sont en cours pour améliorer la prise en charge des sinistrés.
La ville est en train de prendre des dispositions pour les déplacer et puis les loger. Ils sont en train de construire des tentes.
En entendant de mesures concrètes, les sinistrés restent partagés entre rester à Pakajuma et l'incertitude d'une nouvelle relocalisation.
Restons dans la capitale, les usagers de l'avenue Kasavubu, reliant la commune de Bandalungwa à celle de Kitambo, se plaignent de son impraticabilité sur le tronçon partant de l'arrêt communément appelé Bloc jusqu'à l'arrêt dit Ikwado. Depuis un certain temps, il est difficile pour les usagers de circuler paisiblement sur cet axe. Des causes sont notamment la dégradation de la route, la lenteur des travaux de réhabilitation et aussi la stagnation des eaux de pluie. Magloire Landou nous en parle.
À Bandalungwa, entre le Zari Block et Tshibangu, l'eau a envahi une partie de la chaussée, obligeant motards et automobilistes à rouler à contresens. Par contre, entre le Zari Maison Bungu, station Macompagne et Kwado à Kitambo, le travail de réhabilitation n'avance pas. Eli, un habitant de ce quartier, témoigne.
Plusieurs tronçons de la ville de Kinshasa sont impraticables. Par exemple, l'avenue Kasavubu de Bandal à Kitambo, la route est dans un état complètement délabré. Ça crée des embouteillages et la population en souffre. Nous sommes obligés d'y recourir aux mototaxis qui nous exposent à plusieurs risques. Nous demandons aux autorités du pays de s'impliquer par rapport à cette situation, d'arranger le route, non seulement d'arranger, de faire des projets pour les arrangements, mais aussi le suivi.
Madame Fifi, quant à elle, laisse exploser sa colère.
Nous souffrons, il n'y a pas moyen. Moi, je quitte Kitambo Magasin pour aller laisser mon enfant qui étudie à l'école Frère Zouza. Les embouteillages, les étangs d'eau que la pluie a causé, la route s'est même abîmée. Nous arrivons à l'école avec les enfants en grand retard. En tout cas, que les autorités puissent nous aider.
Les usagers de cette route appellent les autorités à accélérer les travaux de réhabilitation de cet axe routier afin de faciliter la circulation.
Les opérateurs économiques de Cabinda dans la province de la Lomami se disent disposés à payer régulièrement leurs taxes et impôts, mais ils exigent des réalisations concrètes en retour. Cette position a été exprimée le week-end lors d'une réunion organisée par la Direction générale de recettes de la Lomami, DGRLO, antenne de la ville de Cabinda, sous la conduite de son chef d'antenne, David Kabumbula. Ces informations de Ezaboto Yomboué de Radio Veritas Cabinda sont rendues ici par Élisée Chikota Chivuta.
Au centre des échanges figurait la sensibilisation au civisme fiscal et l'importance de la mobilisation des recettes provinciales. Les responsables de la régie ont rappelé que ces ressources constituent un levier essentiel pour financer les projets de développement et améliorer les services publics dans la province. Prenant la parole, le président de la Fédération des entreprises du Congo, ville de Cabinda, Jean-Bélé Kilama, a salué l'initiative. Il a affirmé que les opérateurs économiques sont prêts à remplir leurs obligations fiscales à condition que leurs contributions produisent des effets visibles. Les participants ont notamment évoqué l'état des routes, l'assainissement urbain et l'amélioration du climat des affaires. Pour eux, le respect du devoir fiscal doit s'accompagner d'une gestion transparente et d'une contrepartie perceptible afin de renforcer la confiance entre l'administration et les contribuables.
Nous parlons santé au Nord Kivu, le centre d'accompagnement psychosocial de Moussimba, localité située entre la ville de Butembo et le territoire de Lubero, fait face à une pression croissante des malades. Le mois dernier, soit février 2026, il a reçu plus de 100 patients souffrant de déficience mentale, principalement des déplacés fuyant l'insécurité. Selon Jérôme Tamos, psychiatre et responsable du centre, l'infrastructure et les ressources financières sont largement insuffisantes pour répondre à cet afflux. Il appelle les humanitaires et le ministère de la santé publique à renforcer la prise en charge de ces populations vulnérables. Il le dit au téléphone de Martial Papimoukeba.
Avec le problème de déplacement imposé par les sécurités dans notre milieu, nous sommes en train d'enregistrer plus de déplacés justement sans aucune assistance. Parfois, d'autres qui viennent dans des institutions qui tentent de l'héberger, on les fait accompagner seulement par des lettres qui montrent qu'ils sont des déplacés, mais sur le droit justement financier, il y a encore des souffrances. Seulement, on ne sait pas justement comment ils peuvent s'acquitter de leurs frais de soins. Et c'est pourquoi nous avons toujours lancé des messages aux ONG. Et peut-être via aussi notre service, le ministère de la Santé du gouvernement congolais, il faut qu'on voit peut-être les mesures, comment épauler se déplacer, mais aussi lorsque nous avons des difficultés justement de les recevoir, beaucoup d'entre eux peuvent rester aussi dans la communauté sans soins et ça consiste aussi d'entière. Pour le moment, avant qu'on finisse même ce mois de février, nous avons pu recevoir plus de 100 malades et cet effectif énorme nous crée justement des inquiétudes par rapport aussi à notre capacité d'accueil, à la dotation des médicaments, autres besoins justement érigés par rapport aussi à leur prise en charge.
À Kindu Manima, il y a eu début hier d'un atelier de vulgarisation de la loi en lien avec la conservation de la nature à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. Des responsables chargés de la sécurité ainsi que de la justice, de l'auditorat militaire, des tribunaux civils et militaires participent à ces assises de deux jours qui se clôturent aujourd'hui. L'objectif est de renforcer les capacités des participants sur les instruments juridiques régissant la lutte contre la criminalité faunique. C'est ce qu'explique Radar Nishuli, chef de site du parc national de la Lomami. Il est au micro de Florence Kizalunga.
C'est au-delà de la simple vulgarisation. J'ai tenté un peu de réunir tous les services qui sont supposés être nos alliés pour essayer de coordonner ensemble les actions. Mais ce qui est vrai, c'est que nous devons retenir, c'est la façon de faire qui pose problème. Les lois sont là. Par exemple, la loi 14, nouvellement revue, n'est pas à la disposition de l'organe de loi. Cela veut dire qu'il y a des nouvelles lois qui viennent, mais tous les magistrats ne sont pas au courant de ces lois-là. C'est-à-dire, il fallait que nous fassions cet atelier pour vulgariser aussi nos lois qui nous régissent. Parce que c'est bien bon de condamner quelqu'un qui n'était pas à faire le travail. Mais il doit d'abord savoir qu'est-ce que tu fais comme travail et comment tu dois le faire. Tout le monde est en train d'apprendre. Je pense que c'est ce qui manquait, la communication et l'explication du boulot des uns et des autres. Par où nous nous retrouvons pour faire la complémentarité. Mon souhait est que nous aboutissions à un schéma des rôles et responsabilités. Quand il y a tel cas, qui est responsable de quoi et comment procéder?
Actualité internationale.
C'est désormais officiel. L'ancien président Macky Sall est l'un des trois candidats pour prendre la tête de l'Organisation des Nations Unies en janvier prochain. Le Burundi, en tant que pays qui préside l'Union africaine, a présenté lundi la candidature de Macky Sall pour succéder à Antonio Guterres. Mais au Sénégal, cette candidature au poste de secrétaire général de l'ONU divise la classe politique et fait débat.
L'invité.
Vous le savez, le forum provincial sur la problématique des ADF s'est clôturé mercredi 25 février à Beni au Nord Kivu. Les participants ont pris une série d'engagements forts. Ils ont entre autres souligné l'importance du partage en temps réel des informations par la population. Des intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier ont analysé les différentes recommandations issues de ce forum. On les écoute au micro de Kimate.
Rémi Mukweso, vous êtes député national et cadre de l'Union sacrée de la Nation. Vous êtes président du groupe parlementaire bâtissant le Congo. Vous êtes également élu de Butembo Nord Kivu. Comment vous analysez ces différentes recommandations issues de ces forums de Beni sur les ADF? On commence par celle qui vient de l'armée, qui pense qu'il faut des opérations multidimensionnelles contre les ADF. On voudrait savoir justement si à l'approche militaire, il faut associer d'autres approches.
Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la solution pour éradiquer les ADF Nalu, ça va passer par des opérations. Non seulement militaires, mais il faut intégrer l'apport de tout le monde. Je crois qu'ici, on voulait interpeller non seulement la communauté locale, la communauté nationale, qu'il y ait une contribution multidimensionnelle. Déjà au niveau local, on a appelé la population à collaborer avec les services compétents, notamment l'armée, l'ANR, tous les services qui peuvent nous aider à éradiquer ce phénomène. Et deuxièmement, au-delà de ça, nous devons encourager les opérations qui sont déjà lancées. Aujourd'hui, nous avons les opérations conjointes avec l'armée ougandaise, qui effectivement, si nous rentrons dans l'histoire de ces opérations, vous allez vous rendre compte qu'au départ, il y a eu des résultats. Aujourd'hui, le secteur de Rwenzori, la chaufferie de Bachou, elle est, je peux même me permettre de dire, à 90%, en tout cas, est pacifiée, parce que c'était des zones rouges où le terrorisme avait pris domicile. Mais aujourd'hui, si vous arrivez à Mwalika, c'est dans le secteur de Rwenzori, en tout cas, la population est en train d'évacuer librement à ses occupations. Donc, il y a quand même des résultats. C'est pourquoi nous voulons assez que les mêmes stratégies qui étaient appliquées dans ce secteur-là soient appliquées du côté Mangurejipa, dans le territoire de Lubero. Et nous estimons que si nous appliquons les mêmes stratégies, ça va nous amener au résultat. Mais vous l'avez dit effectivement que on ne peut pas éradiquer le terrorisme seul. Il faut l'implication de tout le monde. Et le forum nous a en fait permis d'avoir une même compréhension, bien évidemment. Mais nous avons encore un grand travail à faire. C'est de pousser à ce que la communauté internationale joue pleinement son rôle.
Patrick Mundeke, vous êtes membre du parti politique Ensemble pour la République. Vous êtes conseiller de Moïse Katumbi et membre du collectif des notables du Nord Kivu. Comment vous réagissez à ces recommandations du forum de Beni sur les ADF, notamment les opérations multidimensionnelles contre les ADF prônées par l'armée?
Je suis sidéré à écouter Rémi. C'est tout le monde qui est redevable, sauf le gouvernement congolais, sauf les FARDC. C'est la MONUSCO qui ne fait pas bien son travail, c'est la population, c'est des complices. Mais il ne sait pas, il oublie volontairement que l'armée doit être le dernier rempart de la population congolaise. On parle de recommandations, on dit, on organise un forum. Depuis des années, ça fait 14 ans qu'on tue la population au Grand Nord. On a organisé plusieurs forums. C'est quoi les résultats? Maintenant, où est la stratégie nationale claire, anticipative et évaluée pour préserver le vide déjà au Grand Nord. Elle n'existe pas. On demande à la population de collaborer, c'est très bien. Mais qui raconte aux populations lorsqu'on massacre les gens? Tous les ADF qu'on a arrêtés, qu'est-ce qu'on en a fait? Où sont-ils partis? On n'a même pas assisté à des procès publics pour savoir qu'est-ce qui se passe. Comment voulez-vous que la population vous fasse confiance?
Placide Nzilamba, vous êtes secrétaire technique de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Qu'est-ce qui doit être fait justement pour éradiquer de façon convenable et durable cette menace indienne?
Il faut un lobbying important au niveau international pour obtenir des forces spécialisées dans le terrorisme et qui ont des moyens. Si aujourd'hui on obtenait par exemple les États-Unis comme qui est déjà notre partenaire et qu'on présentait un papier complet sur cette question et qu'on trouve des unités américaines dans cette opération. Moi je vous dis, ça ne va pas nous échapper. Parce que pour le terrorisme, il faut vraiment des moyens. Parce que ça c'est un danger permanent. C'est plus dangereux que même ces M23 que vous voyez là-bas. Parce qu'ils sont en train de s'étendre aussi au même niveau que les M23. Et alors pour moi c'est de dire que ces assises-là et poser les bases d'un dialogue communautaire sur les ADF, mais nous pensons que ces recommandations doivent être mises en pratique par des plans concrets et cohérents.
Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce numéro de Dialogue entre Congolais sur www.radiocapi.net, également sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi. Voilà qui clôture ce journal préparé par Lievin Bwinga, mis en onde par Dieudonné Nyangasa. Merci de votre attention. Excellente journée.